Radio 1, premier sur l'info. Et pour le journal de la mi-journée, on retrouve Samia Stambouli. Bonjour.
Bonjour Moretto, bonjour à tous. Ça sent la fin pour les Pakumotu. Le roi, un ministre et deux gardes du corps ont passé leur première nuit à Nutania. D'autres membres du cercle rapproché du roi ont été placés hier en garde à vue. Le procureur de la République, José Torel, veut la plus grande fermeté de la justice dans cette affaire. Les jeunes du Tavini se réunissent en ce moment même pour leur congrès à Faa. Au cœur des discussions, le processus de décolonisation qui leur sera expliqué plus en détail. Et à quelques semaines des municipales, Oscar Temaru annoncera les têtes de liste dans de nombreuses communes. Les cours en ligne vont-ils révolutionner le monde universitaire en Polynésie? En tout cas, l'idée fait son chemin dans le monde. En métropole, il existe déjà 7 universités qui enseignent en ligne et l'État veut aller encore plus loin. Alors, la tendance va-t-elle se répandre sur le Fénois? Tamara Sentis a mené l'enquête.
Alors, des Pakumotu ont passé leur première nuit à Nutania.
Le juge d'instruction et le juge des libertés et de la détention ont suivi les réquisitions du procureur José Torel. Un roi, un ministre et deux gardes du corps ont passé leur première nuit à Nutania. On fait le point avec Cédric Valax.
Athanase Tehiri, souverain autoproclamé d'un royaume en perdition. Pierre Talahou, son zélé ministre de la Défense. Ismaël Pounou, père et fils, ceux qui ont provoqué la perte du royaume en osant tirer sur des policiers venus interpeller leur roi et chez qui d'autres armes et une quantité considérable de munitions ont été saisies. Tous ont été placés vendredi en détention provisoire à Nutania. Les chefs d'inculpation sont lourds. Constitution d'un groupe de combat, détention illégale d'armes et munitions de guerre, rébellion en groupe et avec armes, mais surtout tentative de meurtre et complicité de tentative de meurtre sur des agents de la force publique. Deux chefs d'inculpation passibles de la réclusion criminelle à perpétuité. Et ce n'est que le début. Les actes sont graves. La justice en sort d'autant plus ferme, comme le confirme le procureur José Torel.
Sur commission rogatoire, le magistrat instructeur va bien entendu s'attacher à démanteler l'ensemble de l'organisation Pakumotu, puisqu'il semblerait que d'autres sites se seraient créés en Polynésie française, dans lesquels des militants de l'association se proclameraient souverains et seraient peut-être susceptibles de détenir des armes et des munitions. C'est intolérable et il y sera mis un terme dans les plus brefs. À partir du moment où des armes sont brandies, des coups de feu sont tirés envers les forces de l'ordre, les limites sont dépassées et les mesures sont prises dans l'urgence et de la manière la plus ferme.
Le démantèlement de ce groupuscule d'illuminés ne fait que commencer. Hier, alors qu'Athanase Tehiri s'expliquait devant ses juges, d'autres de ses proches ont été interpellés et les policiers n'ont pas eu beaucoup de mal à les trouver. Ils squattaient devant le tribunal.
D'autres membres du cercle rapproché du roi ont été placés hier en garde à vue. Maruarei Colombel, présenté comme procureur, ministre de la Justice et porte-parole du gouvernement, ainsi que le ministre des Finances, il devrait être déféré cet après-midi devant le juge d'instruction et pourrait être eux aussi placé en détention provisoire.
Les jeunes du Tavini se réunissent pour leur congrès.
Ils ont investi le Motu Ovini Afa'a dès 8h. Plus de 2000 jeunes sont attendus pour cet événement qui se prépare depuis un mois. Le président du Tavini, Oscar Temaru, recevra comme invité d'honneur Barak Sopé, chef du parti progressiste mélanésien et ancien premier ministre de la République du Vanuatu. Des ateliers sur différentes thématiques seront organisés. Au menu des discussions, l'avenir institutionnel du pays, les ressources marines, sans oublier le processus de décolonisation qui sera expliqué plus en détail aux jeunes du mouvement. Et puis, municipal oblige, Oscar Temaru annoncera les têtes de liste dans de nombreuses communes. Ce sera dans l'après-midi.
L'Agence du développement et de la maîtrise de l'énergie dresse un bilan positif.
Elle a atteint près de 100% du taux de réalisation de ses projets. 142 millions ont été attribués pour les actions en faveur de l'énergie. Et afin de réduire la consommation des énergies fossiles, l'ADEME, la Banque européenne et l'Agence française de développement ont financé le projet SWAC, ce système de climatisation par eau de mer, du Taonais à hauteur de 239 millions de francs. Nous écoutons les précisions de Ei Inui, chargée de la communication et de la sensibilisation à l'ADEME.
Le centre hospitalier de Polynésie française a fait un audit énergétique de son bâtiment. Donc une des préconisations était justement de mettre en place un SWAC. C'est un gros projet, c'est un beau projet, puisque ça devrait nous permettre d'économiser jusqu'à 300 millions de francs pacifiques sur la facture énergie, mais aussi en termes d'environnement, d'économiser jusqu'à 11 000 tonnes de CO2 par an.
Pour les déchets, pas moins de 40 millions de francs ont été alloués à différentes associations, entreprises ou encore collectivités. Un des événements phares de l'an dernier, c'était la semaine européenne de la réduction des déchets, avec la participation inédite de 29 porteurs de projets. Et Inouï nous en dit plus sur cet événement.
L'objectif, là, c'était vraiment d'extérioriser toutes ces actions en faveur de la réduction des déchets. Et donc, on a eu des actions sur le compostage, sur les ordinateurs, qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur, qu'est-ce qu'on pouvait réutiliser, récupérer. On a eu des opérations dans les cantines scolaires, donc pour réduire le gaspillage alimentaire. Donc, toutes ces actions montrent un très fort dynamisme ici en Polynésie et une très forte volonté de travailler sur ce problème.
Des propos recueillis par Vaïté Ourari Pambrin, et à noter que pour 2014, des événements comme la semaine de la mobilité ou encore la fête de l'énergie vont être renouvelés.
Les cours en ligne vont-ils révolutionner le monde universitaire en Polynésie?
C'est en tout cas la tendance que suivent en ce moment les universités du monde entier et plus particulièrement celles des États-Unis. L'idée, les professeurs se filment en train de donner leurs cours avec des éléments interactifs et des explications en option, et les élèves suivent la classe depuis chez eux. En métropole, il existe déjà 7 universités qui le pratiquent, et le colloque qui s'est tenu à Nantes la semaine dernière prévoit qu'il y en ait 30 d'ici la fin de l'année. Alors la tendance va-t-elle se répandre sur le Fénois? Va-t-elle permettre aux jeunes de ne plus avoir à s'expatrier vers la métropole? Élément de réponse de Tamara Sentis.
L'expatriation des étudiants, c'est un problème que l'on connaît bien ici en Polynésie. Les études supérieures se font exclusivement sur l'île de Tahiti et pour beaucoup de filières, c'est en métropole ou à l'étranger. Et pourtant, il est désormais possible de suivre les cours de Harvard, par exemple, sans bouger de son faré. Les grandes universités du monde entier mettent de plus en plus souvent leurs cours sur Internet, à la disposition des élèves et gratuitement. Un chemin qu'emprunte également l'UPF, si l'on en croit son président Éric Comte, mais toute proportion gardée.
De toute façon, c'est un courant irréversible, hein, le fait que des étudiants puissent disposer de grandes ressources grâce au numérique. Nous-mêmes, aujourd'hui, nous avons une plateforme sur laquelle les enseignants mettent leurs cours afin que les étudiants puissent les télécharger, avec aussi, dans certains cas, des systèmes interactifs. Donc, vous savez, tout va un peu lentement, il faut aussi faire évoluer les mentalités des uns et des autres, afin de faire disposer de cours en ligne aux gens des îles, par exemple, qui pourraient suivre des cours à l'université à distance. Ça, c'est quelque chose que nous allons faire. Alors, il faudrait voir maintenant comment cela peut se compléter par ce système de MOOC.
Mais le projet est encore freiné par la qualité de la connexion Internet dans certaines îles. Quoi qu'il en soit, même si l'université de Polynésie française prend le pli du numérique, les cours en ligne restent des appuis pour l'étudiant et ne viennent pas remplacer les cours.
Il n'est pas possible de valider des diplômes par ce système. C'est plus une aide aux étudiants, éventuellement pour aider leur réussite, bien sûr, pour des gens qui reprennent des études ou des curieux qui veulent parfaire leur formation. C'est un outil très intéressant parce qu'évidemment, des cours de très grandes universités sont mis en ligne gratuitement, mais ça ne permet pas aujourd'hui de valider vraiment des diplômes.
En revanche, il existe d'autres options. Le CNAM, par exemple, Conservatoire National des Arts et Métiers, et l'UPF se sont pleinement associés cette année et proposent de suivre des cours à distance qui aboutissent, eux, à une validation des acquis.
De la littérature maintenant avec le dernier livre de Simone Grand qui vient de sortir.
Intitulé « Chant des origines, mythe fondateur du Tahiti d'autrefois », ce recueil reprend 22 poèmes retranscrits dans le livre de Teuhira Henry et traduit par Bertrand Jonaise, intitulé « Tahiti aux temps anciens ». Le dernier né de la bibliographie déjà dense de l'anthropologue et scientifique n'est donc pas une œuvre originale, mais vous allez l'entendre, Simone Grand y apporte une réelle valeur ajoutée à la destination de tous et dans un seul but, ne pas oublier les mythes qui ont fait Tahiti. Écoutez Simone Grand, c'était ce matin dans une librairie de Papeete.
Disons que la première valeur ajoutée, c'est de mettre à la disponibilité du plus grand nombre ces textes qui sont enfouis dans un très gros livre passionnant, mais que beaucoup de gens ne consultent pas. Donc la première chose, c'est de le rendre accessible. La deuxième, c'est de corriger les fautes en tahitien, parce qu'il y avait beaucoup de fautes, comme c'est annoncé d'ailleurs dans le bouquin original, et de donner une autre traduction. Une traduction qui n'est pas une interprétation. On dit souvent que traduire, c'est trahir, mais en même temps, pour moi, trahir, c'est être médiatrice entre deux mondes, entre deux langues. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ignorent que telle a été la parole des ancêtres. Alors comme ça, ils vont dire, qu'est-ce qu'elle vient encore nous inventer celle-là? Je n'invente rien, je transmets.
Son livre est vendu au prix de 1950 francs et il est à retrouver dans toutes les bonnes librairies.